France Inter.
La bande originale, ouais, avec Leïla Gadon-Boutel, avec un peu seul dans ton wear. Ouais. Ouais. C'est Lisa, elle a rien à foutre. Hein. Lisa Delmoitié, Julien Santini, Tanguy Pastureau, Al Delas.
Bonjour.
Et nos invités, Anne Parillo et Lionel Labellance. Oui.
Bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
On a oublié Daniel Morin.
J'ai pas dit Daniel Morin.
Oh, tout doucement alors.
Ouais. C'est vrai.
Il est pas content.
Non, mais une prochaine fois.
Pardon, voilà,
en plus, voilà. pour une fois qu'il a un papier dans l'émission, franchement.
Ça... Il a un papier.
Est-ce que j'ai un papier dans l'émission?
Si tu as un papier dans l'émission.
On verra tout à l'heure.
Bah, demande à tes auteurs. On va évoquer le bémol que je te demanderai de mettre maintenant. On va évoquer ce bémol au Théâtre des Variétés, porté par Anne Barillo. Bonjour. Lionel Abelansky. Bonjour.
Nos invités.
Il y a également Anne-Sophie Giraud. Je voulais être sûr qui est qui.
Ouais.
Des deux. Tellement la ressemblance est proche. Désolé, Anne Barillo était trop facile. Ça
joue. Chemise rayée.
Voilà, c'est un compliment que je fais à Lionel, je vous rassure. Pas l'inverse. Anne-Sophie Girard, Pascal Légitimus, donc Bertrand Mounier et Soleil partagent l'affiche avec vous de cette pièce, de cette création. C'est une signature, c'est la première fois que Cyril Massaro, romancier, se met à écrire une pièce de théâtre. On va en parler évidemment jusqu'à midi et demi, mais d'abord, petit tour de table, parce que le sujet étant une brouille d'amitié, voilà, une belle amitié qui se brouille. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Lisa Delmoitié, dans ta vie, avec une copine ou avec un pote, de te brouiller, de te sentir trahi, en tout cas? Ça veut pas dire qu'après on le revoit plus ou on la revoit plus, mais juste qu'il y a un clash d'amitié.
Je ne suis pas quelqu'un de conflit.
Tu fuis donc.
Ouais, non, il y a jamais eu. Ça. Alors ça se distend assez naturellement.
Ok.
Mais il y a jamais eu de grand.
Il y a pas une soirée où ça tourne mal, quoi.
Oh, okay. Si, bien sûr, enfin.
Bah quoi, sur
une
un
soirée.
Sujet.
On peut parler de drogue à ce moment-là.
Non, je vais moi, je vais balancer avec un pote, un très bon pote.
Oui.
Fin de soirée, on commence à parler, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, de la chasse. C'était.
Et là,
le gars, il est arc-bouté sur c'est la tradition,
oui,
c'est
bien,
c'est ceci, c'est
bien.
Cela, voilà.
Ah oui,
et voilà. Mais c'est un pote, donc je me dis bon, c'est pas grave, on n'est pas d'accord, mais on va quand même se. On va finir quand même la soirée.
Et là, il sort la carabine.
Et c'est parti, ouais. Et c'est parti en live.
Ouais.
Mais genre, mais si tu comprends pas, si tu n'aimes pas, tu peux plus être mon pote, quoi.
Ouais.
Et donc, ouais. Bon, voilà. Okay. Je l'embrasse.
Je peux dire un truc par rapport à ça, Nagui, par rapport à la chasse. Moi, j'ai grandi en Corse. Mon père est chasseur. Malheureusement, maintenant, aujourd'hui, j'ai honte de le dire parce que l'époque.
Non, mais c'est pas une raison.
Mais il faut comprendre quand même que quand on est dans des endroits, par exemple, comme ça.
On est éduqué comme ça.
Ouais.
Je suis d'accord.
Parce qu'aujourd'hui, on dirait ça. On dirait comme dire de droite. Moi, je suis pas de droite.
Je me suis mal exprimé. Alors, je suis d'accord avec toi. Les discussions politiques dans les repas de potes, ça peut vite partir.
Vous allez vous brouiller, là.
Du tout. Non, mais c'est lui. Qui, c'est pas moi qui lui dis qu'assois t'es chasseur,
c'est
lui qui a mal pris que je sois anti-chasse.
Ah oui, bah, autant pour moi. Est-ce que je peux retirer tout mon mot là?
Non,
c'est vrai.
Et je vais citer.
T'es sûr que tu lui as pas dit 150 fois que tu mangeais pas de chasse?
Non, parce que c'était une vieille histoire, c'était avant que je devienne végétarien. Pour name dropper notre parrain de cette émission, Didier Deschamps, qui a grandi comme toi avec le culte de la chasse et de vivre des moments avec son papa, où ils allaient ensemble à la chasse. On n'est pas du tout d'accord, mais on reste très bons potes, il n'y a aucun problème.
Et moi, je n'aimais pas le fusil, et du coup, je ne faisais que l'accompagner parce que j'adorais voir le chien faire son travail.
Il y a
pour
différentes
la petite histoire.
Sortes de
chiens. Alors, très sensible déjà.
Est-ce que tu t'es déjà pris la tête, embrouillé avec un
pote?
Oui,
moi, à la différence de Lisa, je suis très conflictuel, et je me suis souvent embrouillé avec des amis, en général, parce que je me suis rendu compte que je suis très exclusif, et que quand ils avaient...
Et tu te rabiboches après ou pas du tout?
Je me suis rabiboché.
Ah, ok, d'accord. Leïla,
Fâcherie
de potes.
Fâcherie, ouais, bien sûr. Sur des sujets politiques.
Ça va vite, ouais. Non, et puis il y a des moments aussi où on peut se fâcher, où on est responsable de la fâcherie, c'est-à-dire un copain qui dit, tu vois, je croyais pouvoir compter sur toi à ce moment-là, t'as zappé
une date. T'étais pas présent, ouais.
Voilà,
il y a des amis qui ont trop d'attentes, ça c'est sûr. Et puis il y a des amis super aussi, qui sont tellement tout le temps là que quand t'es pas là, toi, pour eux, c'est chiant.
Ça peut être notre faute aussi. Hold the laugh.
Merci.
Tanguy, on n'a pas.
Moi, c'est un peu chaud, donc je n'ai pas envie d'en parler. Voilà.
C'est maintenant.
Oui, je. Okay. Je,
très bien.
Je,
voilà.
Je me suis excusé.
Mais je referai les duos, Aldela.
Tanguy, oui, c'est ça.
Tanguy Passureau.
Alors, moi, j'étais très, très pote avec Daniel Morin. Puis, je l'ai vu défiler dimanche avec ses amis à Paris.
Et, ah oui, ça, c'est vrai.
Et depuis, il est encore plus un ami.
Daniel Morin, alors moi, tu t'es déjà fâché.
Je me fâche avec personne, mais il y a plein de gens qui ne veulent plus m'adresser la parole. Je ne sais pas pourquoi.
Ça s'appelle la France.
Le bon sens, peut-être.
Il faut leur dire bonjour.
Anne Barillot, vous avez, pardon, et je ne parle pas de la pièce, hein. Vous avez déjà connu cette situation d'une amie ou d'un ami depuis des années, puis d'un coup.
Situation absolument flop. Stupide, pas du tout pour un sujet engagé ou ouais. important, mais en fait, ça va vous parler, je mange à ma façon. Et en fait,
ça veut dire quoi, je mange à ma façon?
Ben, ça veut dire que je suis pas forcément dans les normes sociales d'un repas.
Moi, j'ai du carton.
mais oui, parce que du coup, c'est pas clair. Oui, je mange à ma façon.
Je mange très, très, très sainement. Et je me rapproche en ça de Nagui, c'est-à-dire que je suis pas totalement végétarienne. Mais je fais extrêmement attention, je mange pas de sucre, je mange pas de sel, je bois pas, je fume pas, enfin, c'est très, très sain. Et j'avais une amie qui, elle, était vraiment cuisinière et adorait. Et pour elle, c'était vraiment un moment convivial. Ouais, et elle faisait vraiment des repas où elle invitait ses amis. Et je vois, je lui disais, c'est pas grave, tu me fais juste du riz ou je prendrai du pain et ça me suffira. Et en fait, elle s'est fâchée en disant que je ne partageais pas l'élan convivial fait, je ne respectais pas et considérais pas la générosité.
Ce week-end, j'étais chez un pote qui a fait un barbecue et alors barbecue, c'était...
Voilà, c'est pareil, moi je peux pas faire ça.
C'était saucisse, machin, poulet, des viandes, des côtes de bœuf. On était une vingtaine à table et je lui dis, je suis désolé, je vais être le boulet quoi, qui va pas manger ça. Il me fait non, mais pas de problème.
Mais autre chose.
Et oui, il me dit, j'ai fait cuire avant pour pas qu'il y ait la viande, le jus de viande sur le barbecue. J'ai fait cuire avant des légumes pour toi et ainsi de suite. Mec adorable quoi, tout s'est très bien passé.
Et puis j'étais à côté
d'un mec qui mangeait sa côte de bœuf. Moi, je mangeais mes courgettes et mes aubergines.
Mais là, c'est pas exactement la même histoire. Là, tu parles d'une viande. Là, c'est de.
J'ai trouvé qu'il y avait une intolérance. À la limite, elle pensait que je la respectais pas, mais elle me respectait pas non plus.
Oui, voilà, c'est-à-dire
qu'à partir du moment
où on a une
discipline
elle, de vie, un pas vers vous, quoi.
C'est toujours pareil, c'est la différence. Quoi.
Lionel Abelansky, dans votre vie, et je ne parle pas du rôle que vous jouez encore une fois dans cette pièce Le Bémol au Théâtre des Variétés, est-ce que vous avez déjà eu, mais presque comme une surprise, c'est-à-dire un repas, on se dit mais c'est pas possible, quoi. On était amis depuis tant d'années, qu'est-ce qui se passe?
Ça ne m'est jamais arrivé. Non, c'est pas vrai. En fait,
déjà, vous ne parlez pas sur ce ton-là.
Non, mais j'ai eu quelque chose de très violent, en fait. C'est-à-dire que, voilà, vraiment une rupture amicale.
Qui vous touche encore aujourd'hui.
Qui me touche encore, parce que je pense que j'ai raison, lui pense qu'il a raison. Et c'est pas sur une discussion politique, c'est sur vraiment un truc de la vie, un truc profond.
Profond.
Et voilà, je pense que.
Et vous n'êtes pas donc rabiboché, ça vous touche encore aujourd'hui.
C'est-à-dire que non, on n'est pas vraiment rabiboché, non.
Okay. Vite la pièce.
Non, mais il y a. Non, mais parce que c'est ce qui se passe, oui. Dans cette pièce où un chef d'orchestre et un violoniste, le chef d'orchestre joué par Pascal Légitimus, vous jouez le violoniste Lionel Abelansky, lors d'un concert, il y a une note, une fausse note qui arrive et qui s'appelle donc un bémol. Qui ne doit pas arriver à ce moment-là. Le bémol étant un jeu de mots également par rapport à tout ce qui va se dérouler dans la pièce, qui est une comédie, mais aussi qui fait réfléchir justement sur l'importance des rapports amicaux, la place des femmes et également portée par Anne Barillot et Anne-Sophie Gérard dans cette pièce. On parle de bémol. Évidemment, voici Aldela, femme d'Anne Barillot et de Lionel Abelansky.
Je suis fan d'Anne Barillot. Autant femme fatale qu'en tueuse au sang chaud. Début 80, vous avez commencé pour de bon. Vous avez quand même fait de long avec de long. Je suis fan de Lionel Abelansky. Je suis fan de Lionel Abel en scène aussi. Vous êtes recordman du plus grand écart professionnel. Passé de Woody Allen au Chevalier du Fiel. Et vous êtes là ensemble pour la pièce La Bémol. Une pièce qui parle de musique, le titre colle. D'ailleurs, nous, on appelle Nagui le La Bémol, sous prétexte qu'il est juste un peu au-dessus du sol.
J'aime bien.
Ouais, je suis fan d'Anne Barillot, dans Nikita.
Oh la mince.
Pardon, désolé.
C'est pas le moment, franchement.
Allô.
Joséphine, posez votre guitare. Un piano sur votre droite. Vous levez si vous y arrivez, malgré votre surpoids. Vous asseyez sur le tabouret. S'il tient toujours quand vous êtes assis, massacrez un morceau de Polnareff tout en faisant des compliments aux invités.
Okay. Des acteurs merveilleux et beau, mais c'est la meilleure Mario. Elle joue et elle perd au casino, mais elle est super Mario. Et elle est belle en ski. Lars von Life. Comme toujours, un génie. Et deuxième essai, Abel en ski. Dès qu'il parle, nous on rit. Ouais, je suis fan de vous car vous êtes vraiment. Ah. Allô?
Joséphine?
Non, c'est Oldelaf.
Non, Joséphine, c'est le code.
Ah, pardon.
Bon, terminez la chanson, vite, on n'en peut plus.
Pardon. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
La mise en scène, référence à Nikita. J'adore.
Ah ouais.
Formidable. Alors sur scène,
j'ai eu peur. J'ai eu peur de la communication, franchement. Ouais. Que,
ah bah oui, bah j'aurais pu
que les consignes soient plus sévères. Que...
j'aurais pu faire du mal.
J'aurais aimé voir un petit massacre. Enfin bon, peut-être à Fleury-Mérogis ou ailleurs.
Non, je serai demain à Sébaza, à côté de Clermont, et puis
très bien.
Vendredi à Montpellier, voilà.
Mmh. Ah, un texto vient d'arriver. Oldelaf est génial. Bravo. Anne Parillo. Et avec Lionel Abelanski, Pascal Légitimus, Anne-Sophie Gérard pour cette pièce Le Bémol. Ce sont ces deux couples mis en scène. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier Bertrand Mounier et Soleil au casting de la pièce. Mmh. Le point de départ, donc un concert, mais une fausse note, Lionel.
Une fausse note par quelqu'un qui ne fait jamais de fausse note, puisque c'est un
premier violon, qui est le binôme parfait du chef d'orchestre.
Alors, au point de son ami, le chef d'orchestre le soupçonne de l'avoir fait exprès.
Et il l'a probablement fait exprès. Et donc, ce chef d'orchestre veut savoir pourquoi. Mmh. Et le lendemain, son premier violon organise un dîner un peu, pas machiavélique, mais un peu tordu pour essayer de régler le problème.
Mmh. Ouais, pour lui dire, oui, il y a eu, une note que j'ai volontairement jouée, qui est un bémol, alors qu'il ne fallait pas jouer ce bémol. Dans un premier temps, Anne Parillo, vous êtes l'épouse du chef d'orchestre, vous le défendez un tout petit peu, en disant non, mais tout va bien.
Oui, là, en fait, c'est vraiment un personnage d'alcoolique décalé, joueuse
compulsive,
bourgeoise, et qui regarde un peu tout ça avec énormément de distance et énormément de recul, un peu comme un terrain d'observation, une tour d'observation comme ça, où finalement, elle l'air d'être totalement ailleurs, en fait, à chacun... Elle leur dit une vérité de ce qu'ils représentent.
Grâce à l'alcool, si je peux me permettre.
Exactement, qui lui apporte une vraie lucidité, qui lui permet. Non, mais c'est vrai.
Alors, tout ça avec modération, évidemment, parce que sinon l'ARCOM va nous appeler. Hein.
D'accord.
L'alcool n'amène pas que de la lucidité.
Non, mais quand on est un enfant.
Il peut amener des enfants, il peut amener des accidents.
Des divorces.
Mais non, mais elle devient lucide, ou du moins, elle se permet de dire.
Oui, elle s'autorise. D'accord. Alors, ça la désinhibe, si vous voulez, voilà. Et elle s'autorise, effectivement, à. Finalement, lancer à chaque fois des scuds pour remettre les gens à leur place et relativiser la situation où, parce qu'à travers cette comédie de mœurs, c'est évidemment les failles sociales qui se jouent et c'est toujours intéressant quand c'est sur évidemment le ton de la comédie parce que ça permet de ne pas être agressif mais de dire quand même de la vérité.
Oui, et puis il y a beaucoup de dérision dans les situations lorsque par exemple vous évoquez une personne et je crois que c'est Anne-Sophie Gérard qui est dans la salle et qui fait des chorégraphies et qui fait des gestes caisses dans tous les sens pendant un concert.
Oui.
Et vous vous dites, mais t'as pas vu qu'il y avait une folle aussi au quatrième rang, ça t'a pas gêné? Il fait, bah, je te rappelle que je suis chef d'orchestre et que donc je suis dos à la salle.
Oui. C'est-à-dire oui, que c'est, tout est, c'est ça, comme ça, y a un côté beaucoup d'ironie. Chien et chat, c'est un couple qui existe vraiment, c'est un couple qui s'aime et c'est un couple vivant. Mais c'est vrai qu'ils arrêtent pas, c'est chien et chat, ils s'arrêtent de s'envoyer voilà, des scuds l'un contre l'autre.
Et puis, il y a un personnage clé, c'est Gino. C'est le...
Pizzaiolo.
C'est le pizzaiolo, traiteur.
Qui n'est pas pizzaiolo. Enfin, qui est
un traiteur italien.
Ouais, qui réfute cette appellation.
Ouais. Et qui vient livrer régulièrement ses spécialités, ses arancini.
Voilà, c'est-à-dire qu'il est nourri quasiment tout le temps. Et il habite juste en dessous, donc c'est très pratique pour eux. Et c'est un personnage qui intervient vraiment dans leur vie.
Oui, non mais...
Qui fait le lien, qui donne son avis... Et qui est assez
qui est au courant de leur intimité surtout, ouais. Puisqu'il est en permanence
et qui installe le rapport de force ou d'importance entre les deux. Qui est le plus important des deux? Mais non, je vous sers les plats à chacun. Non, vous servez d'abord l'un puis l'autre. Donc il y a un ordre dans la livraison qui fait qu'il y en a toujours un qui passera avant l'autre.
Ouais. Ben justement, c'est ça, c'est toujours le même, un peu. C'est pas moi.
C'est une queue. Mais alors, on va pas tout dévoiler, parce qu'il y a un twist quand même, il y a des révélations au fur et à mesure de cette pièce. On peut s'arrêter jusqu'où, Lionel?
C'est que... Ben, y a même des secrets de famille. C'est-à-dire que c'est ce trio, c'est-à-dire Jeanne, donc, qui est jouée par Anne, Antoine, par Pascal Légitimus et Philippe, vivent l'un au-dessus de l'autre...
sont dans le même immeuble.
Une famille, les meilleurs amis du monde. Voilà. Donc c'est pour ça que cette réunion est très importante. C'est pas pour tout péter, c'est vraiment pour consolider. Eux deux s'adorent, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas.
Oui, mais il y a un enjeu. Au moment où cette pièce se déroule, il y a un enjeu de récompense, comme un prix de musique classique, une victoire de la musique classique à recevoir, en tout cas un vote.
Un Nobel.
Voilà, exactement. Pour
le
chef d'orchestre.
En tout cas, pour un musicien classique, que ce soit un musicien ou un chef d'orchestre. Oui. Il y a un classement, donc. Du meilleur, soit chef, soit musicien. Et c'est là où l'un court à sa reconnaissance professionnelle, le chef d'orchestre joué par Pascal Légitimus, et où l'autre peut avoir le sentiment d'avoir été toujours le pouli d'or de la situation, celui qui l'aide et qui n'est jamais reconnu.
Oui. Il y en a un qui veut réussir dans la vie et l'autre qui veut réussir sa vie, en fait. Et ça s'affronte. C'est beau, hein. Ouais, c'est pas
joli.
De moi, je crois. Hein.
Ouais, c'est, joli.
C'est
joli.
C'est de
Nietzsche. Non, mais c'est exactement ça. Et viennent donc se mêler. Il y a des règlements de compte. On parlait tout à l'heure des règlements de compte entre potes. Jusqu'où va l'amitié et puis la sensibilité de l'un ou de l'autre. Parce que si dans un couple, il y a un rapport de force, je parle de couple d'amour, dans les couples d'amitié, ce rapport de force aussi peut jouer avec. C'est toujours le même qui subit les vannes, c'est toujours le même qui sort.
Qui appelle,
voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un ordre.
Il y a des arriérés, de toute façon, c'est dans vrai. L'amitié aussi. Il y a des choses qu'on laisse passer, mais qu'on digère plus ou moins bien, qui finissent par ressurgir à un moment où on s'y attend le moins, et voilà. Il y a des explications.
Comme dans le couple aussi, parce que ces deux couples-là ont des structures particulières aussi.
Mais c'est pour ça que c'est intéressant, dans la comédie, de pouvoir malgré tout parler de thèmes qui sont totalement d'aujourd'hui, c'est-à-dire les abus, la manipulation, la perversion, et effectivement les rapports entre deux êtres. À partir du moment où on est deux, s'il n'y a pas tolérance, s'il n'y a pas générosité du cœur, forcément, on tombe sur tout ce qui habite l'obscur d'une âme, et donc forcément...
Donc vous êtes la bourgeoise délurée, limite alcoolique, de l'autre côté... Pardon, c'est un rôle.
Et joueuse.
Et joueuse,
ce qui est drôle, c'est qu'on me fait toujours jouer une alcoolique, moi qui bois absolument pas.
Mais voilà, ouais, c'est grâce à cette sobriété que vous le faites bien. Anne-Sophie Girard, elle est une influenceuse zen, on est là aussi dans d'autres codes de communication, de followers.
Ah ben l'influence, voilà. L'Instagram.
De génération même.
Oui, de génération.
Les likes.
Je ne comprends pas bien. Voilà.
Et ce règlement de compte avec ces... Il y a aussi une histoire d'enjeu d'argent aussi, parce que le rapport de force n'est pas que dans la position sociale du chef d'orchestre versus le joueur de violon, ou le premier violon de l'orchestre. Il y a aussi la reconnaissance, l'argent, qui domine l'autre, qui a le plus d'argent. Il y a des affaires... particulière. J'ose pas trop en raconter tellement, ouais. Encore une fois, il y a des choses surprenantes.
Ouais, c'est difficile comme... de... Parce que vous voyez, est-ce qu'il y a une dotation aussi avec ce prix, voilà. Qui est assez énorme.
Voilà.
Qui est assez énorme, mais...
On m'en dit pas plus.
Mais voilà, mais qui va être un enjeu, quoi, vraiment.
Le bémol, savoir mettre le bémol dans des propos que l'on tient, savoir mettre un bémol sur l'estime que l'on porte, ou minimiser, parce que c'est ça aussi, le bémol c'est un demi-ton, oui. En dessous. Donc c'est, ce jeu de mots est utilisé dans la pièce avec le bémol qui devient une fausse note, qui pourrait être une bonne note, hein, mais là elle n'était pas placée comme ça, donc ça devient une fausse note dans le concert qui est donné, et le bémol qu'il aurait fallu mettre dans les propos ou dans la reconnaissance, ou de dire c'est quelqu'un de formidable, mais avec un petit bémol, et là, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent
pas du tout.
C'est au Théâtre des Variétés, ça se joue uniquement du 3 au 21 juin, on en parle jusqu'à midi et demi. Voici Lisa Delmoitier. Parce que vous, Lisa, vous n'auriez pas fait une pièce comme ça sur l'amitié, sur la musique.
Mais non, le NAC, vous connaissez mon âme pure. Moi, je ne connais pas la rivalité entre amis et collègues. Ce que j'aime dans notre équipe, c'est la solidarité. Quand je vous vois tous raconter vos petites blagues écrites sur vos petits papiers, je peux vous le dire, je ne suis pas jalouse. Je ressens de la tendresse, attention, l'envie de rire, même parfois, mais pas de jalousie dans cette équipe. Mais ce dont il est question, quand même, dans le bémol, on l'a dit, votre personnage, Lionel, est un violoniste que son chef d'orchestre soupçonne de l'avoir saboté. Un peu comme quand on raconte nos blagues ici, et les invités ne rigolent pas. Je dis toujours au rédac chef, mais il nous sabote. Ce à quoi il me répond, oui. Ou alors, c'était pas drôle. Mais je pense jamais à cette option-là.
C'est bizarre.
Et ce soupçon, il se base sur quoi? Sur le fait que Lionel, vous avez joué un si bémol plutôt qu'un si, insupportable pour un chef d'orchestre prodige, bien sûr. Cela dit, j'aime le bon sens de votre personnage, Anne. C'est bon, il y a à peine un centimètre entre les deux notes, et elle a raison. Cette obsession masculine pour le moins de centimètres, ça n'a pas d'importance, les gars. On enchaîne, quoi. Franchement, on dit toujours que les artistes doivent partager leur vie avec leur muse, mais pour voir pas mal d'artistes défiler ici, je crois que c'est mieux quand les artistes partagent leur vie avec une femme qui les remet à leur place. Hein. Un peu moins de « écris-moi une symphonie, mon génie », et un peu plus de « tu scoutes ta baguette, mon pote, tu sauves pas le monde, donc on se calme. Hein. » Belle musique, mais enfin, si ou si bémol, c'est pas ça qui va diminuer le prix des œufs. Donc me casse pas la tête, c'est bientôt l'heure d'affaires conclues. Moi, j'aime bien votre personnage, Anne, et je la trouve un peu trop jugée dans cette pièce. Voilà. Elle a dilapidé son héritage au casino. Mais quoi ? Elle est repartie à zéro. Symboliquement, c'est beau. C'est ce que je me suis dit, en tout cas, le mois passé, quand je suis repartie aussi à découvert du casino. Faut dire, ils font moins 50% sur les Capri-Sun.
Ah voilà.
Je parle du supermarché.
Oui, on a compris.
Vous suivez ça. Je suis pas encore assez riche pour tout claquer à la roulette, moi. Quand je mise tout sur le 12, c'est juste la caisse numéro 12. Pitié, que ce soit la caisse qui avance le plus vite. Les jeux sont faits, rien ne va plus et coup dur. Une petite vieille décide de tout payer en petite monnaie. C'est quand même fou que ce soit toujours les vieux les plus lents. Quand tu sais le peu de temps qu'il leur reste.
Mamie, il te reste
156 jours sur Terre, 158 si tu mets tes bas de contention. Et il te reste encore à visiter l'Amérique du Sud, faire du saut en parachute et expérimenter un plan à 3. Donc, tic-toc, si j'étais toi, je passerais au paiement sans contact, quoi. Pensez efficacité, quoi. Alors, tu fais comme tout le monde, tu payes avec ta carte, tu donnes ta monnaie au sans-abri, tu gardes 1 euro pour le casier à la piscine ou le caddie du casino, enfin, t'avances, quoi. Enfin bref, j'ai claqué donc tout mon héritage au casino en Capri-Sun. J'aime pas le goût des Capri-Sun, mais j'adore percer un trou avant de boire. Voilà. Je crois que c'est pour ça que ma mère m'a pas allaitée. Avant de téter, j'ai insisté pour lui percer les tétons, elle a dit non. Bref, j'adore percer les trucs, donc pas de regret d'avoir dilapidé ma thune au casino. Et Anne, Lionel, vous venez d'avoir eu un aperçu de mon style d'écriture. Autant vous dire qu'autour de la table, il n'y a pas que moi qui ne ressens pas de jalousie.
Merci. Bravo. Lisa Delmoitier, du 3 au 21 juin, donc, au Théâtre des Variétés, ce bémol, pièce de Cyril Massarotto, mise en scène par Anne Bouvier, formidable actrice aussi, que l'on embrasse, metteuse en scène donc de cette pièce avec vous, Anne Parillo, Lionel Abelansky, mais également Pascal Légitimus, que nous recevrons la semaine prochaine pour un roman photo.
Un roman photo.
Le musée de la Croûte.
Des vieilles. De... si, le vol.
Non,
attends, c'est,
vrai, ouais.
C'est là. C'est vol au musée de la Croûte.
Bah, voilà.
Il y avait des vols.
Enquête.
Le musée voilà. De la Croûte.
Pascal Légitimus sera avec nous et Antonin.
Oldela fait déjà en train d'écrire
ça. Ça, c'est la semaine prochaine. Il y a également donc avec vous sur scène Anne-Sophie Gérard, Bertrand Mounier, qui interprète le luthier admiratif et qui, alors lui, c'est le bon pote, c'est celui qui sert d'alibi. Il sait même pas pourquoi, mais il est prêt à mentir pour cacher n'importe quel crime.
Il est fan du chef d'orchestre et donc c'est son alibi. C'est son alibi. Il se pointe
tellement
que
drôle.
Pour essayer de le sortir.
Tellement drôle. C'est tellement drôle parce qu'en fait, il ne fait que répéter ce qu'il a entendu au téléphone pour débarquer, pour vite couper court à une situation gênante ou empêcher qu'un repas. Voilà, c'est vraiment le bon pote, hein, fan. C'est toujours dangereux les fans. Ouais. Mais c'est le bon pote qui vient et qui fait OK, tu viens et puis tu dis qu'on doit partir. C'est l'alibi pour tromper sa femme ou pour casser une situation.
C'est un pote hyper utile.
C'est ça.
C'est celui
qui va venir enterrer à 3h du matin le cadavre que tu as fait.
Il arrive toujours à contre-temps, en fait. C'est-à-dire, il plante les mensonges. En fait.
Oui, c'est ça. Il out, finalement, il rend plus grave la situation. Ouais. Mais c'est ça qui est drôle aussi dans la comédie, c'est lorsqu'on veut se sortir d'une situation en disant « j'ai la solution » et que la solution ne fait que empirer ou aggraver ce qui s'est passé. Tout tourne autour de la musique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous parlez du bémol, évidemment, chef d'orchestre, musicien, il y a un luthier. Vous avez employé un terme musical pour expliquer qu'il venait mettre une catastrophe quand le luthier arrivait. Il arrive à contre-temps, ça reste de la musique. Ouais. Donc c'est vrai que le monde de la musique est propre à cela, tout simplement parce que la musique c'est l'harmonie et que l'amitié devrait être l'harmonie. Et c'est justement ça qui est cassé à ce moment-là. Je n'ai pas cité, Soleil qui joue le traiteur, donc passionné de musique, pas le pizzaïolo, le traiteur passionné de musique. Tout cela avec une soirée qui est censée réconcilier les uns ou les autres et qui devient
un
fiasco. Un fiasco total. Le plaisir d'être sur scène, Anne Paillot, ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué au théâtre ?
Mais en fait, la metteur en scène, Anne Bouvier, est la même que la pièce que j'ai faite l'année dernière qui était Je ne serais pas arrivée là si. Et c'est vrai que non seulement moi, le théâtre, à chaque fois, c'est quand même un vertige absolu. Mais là, en plus, la comédie, c'est la première fois pour moi. Donc, c'est une panique totale face à une troupe d'hyper doués et d'hyper drôles. Donc, c'est une super école pour moi.
Et faire rire dans la vie, vous aimez ça?
On me dit drôle. Je ne le vois pas comme ça, parce que moi, je pense que...
Alors, ce sont des gens qui se moquent de vous, si je vous rappelle.
Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un rejet...
C'est de la comédie.
Personnel, hein, de dire je suis dans l'incapacité de faire rire et c'est pas ma place ou c'est pas forcément ce que j'ai envie d'explorer chez moi.
Mais entre copains et copines, si vous prenez un verre.
A priori, ils sont pliés de rire, ils rigolent.
Alors mais que pas vous.
Je m'en rends pas compte, en fait.
Ce ne sont pas des gens qui se moquent de vous à ce moment-là.
Non. Non, à chaque fois, ils me disent que je devrais faire de la comédie. Et à chaque fois, je dis oui, non, je sais pas. Et en fait.
C'est bizarre ce frein.
Parce que je pense, maintenant que je suis dans le saut, en fait, ça demande un tel lâcher prise et ça demande un tel abandon de pouvoir tourner les choses en dérision et soi-même en premier.
C'est sûr. Il y a un truc d'image, ouais. C'est clair que jouer la bourgeoise alcoolo, c'est ne plus faire attention à son image et un lâcher prise. Mais il y a le tempo de la comédie. On continue avec les termes musicaux. Mais c'est un rythme aussi, la comédie.
C'est non seulement un rythme, mais c'est aussi... alors, j'ai perdu ma phrase, en fait.
On va la retrouver, vous l'avez posée où là,
Oui, c'est que en fait, j'ambitionne, comme moi, je suis plus dans l'incarnation que la composition, alors que la comédie, c'est vraiment de la composition. J'ambitionne, malgré tout, de pouvoir être dans une authenticité totale dans la comédie.
Et vous en pensez quoi, Lionel ?
Mais moi, je trouve pas que ce soit de la composition, la comédie. En fait, je trouve que il faut être hyper sincère.
C'est ce que je découvre. Mais c'est vrai.
Il faut être hyper vrai.
Il faut être premier degré, en fait.
Oui, mais il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'intensité.
Si on fait rire d'une situation, il faut assumer que ce soit un rire, entre guillemets, contre.
Mais je crois qu'il ne faut même pas se poser la question.
Ouais, d'accord, ok.
Moi, j'ai l'impression que quand je répète, je ne sais pas ce qui va faire rire. Ouais. Bon, ce n'est pas une impression, je sais. Je sais, parce qu'on est tout le temps étonné par. Pourquoi ils rient?
À quel moment les gens rient?
Pourquoi les gens rient?
Est-ce que c'est facile de jouer, de faire rire, sans rire soi-même? C'est-à-dire de rester dans le personnage, dans le rôle, et de ne pas avoir le petit plaisir de la vanne qui a fonctionné?
Alors, on se fait avoir. Ce qui est agréable, c'est les surprises qui sont inattendues. Sinon, les choses qui nous font rire dans la partition, enfin, dans, encore un terme de musique, dans le texte, ça nous fait rire pendant un moment, puis c'est comme une blague. Après, au bout d'un moment, la blague ne fait plus rire, donc... C'est pour ça aussi qu'on oublie que c'est drôle. Et que et après, les gens se réapproprient.
Pourquoi ne jouer que du 3 au 21 juin? C'est extrêmement court quand même. C'est frustrant de se dire, bah là, si.
Parce
vous,
que c'est les vacances.
Si
après.
Vous loupez.
Vous avez qu'à commencer plus tôt. C'est censé être repris.
Ah, d'accord.
C'est ça le
pari.
L'objectif.
Très bien. Du mardi au samedi à 20h30, donc au Théâtre des Variétés. Samedi et dimanche à 16h30, le bémol. Anne Parillo, Lionel Belinsky sont nos invités jusqu'à 12h30. Pascal Légitimus se partage l'affiche avec eux deux. Également Anne-Sophie Girard, Bertrand Mounier et Soleil. Mise en scène par Anne Bouvier. Et tout cela écrit par Cyril Massarotto. Il est temps. Ah non, c'est Daniel, c'est maintenant.
C'est maintenant ?
Ah non, c'est Julien.
C'est Julien.
Ah, très bien, c'est Julien Santini. Je sais plus, ça change tous les jours.
Quelle richesse.
Ça va, ouais, trop d'humoriste ici.
Bonjour à toutes
bonjour.
Et à tous.
Bonjour.
Pourquoi tu parles comme ça? Ça fait hyper plaisir d'être là. C'est bientôt la fin de cette saison pour la bande originale. Non. Et comme vous le savez, c'est ce que j'ai écrit. Hein. Et comme vous le savez, le mercato des chroniqueurs approche pour la saison prochaine. Et en tant que représentant syndical des humoristes, mais non, je plaisante. Et puis déjà, y aura-t-il seulement une saison prochaine, Leïla et Nagui nous feront-ils le coup de la saison dernière? Oui. Bon, dans ma tête, c'était pas mal. Bande de velettes. Moi, je pense que j'ai des chances de rester, mais si je ne reste pas sur France Inter, je pense que j'aurai ma place sur France Musique avec des chants. Anne, Lionel, de mon île, des fameuses polyphonies. Ah. Oh, Garcia. Oh, Nagui, tu vois pas le camp pour taratata.
Jamais.
Nagui, je pense que tu seras sensible à la cause corse. Sinon, qui protégera ta maison sur les hauteurs de Bastia, à Ville di Petrabugno? Mais je n'ai pas de villa, Bastia. J'avais anticipé ta défense. Par contre, je vous le dis tout de suite, si moi je reste, j'estime que je suis en position de force.
Pourquoi?
Je veux une augmentation. Alors, ce n'est pas une prise d'otage, encore moins un kidnapping. Mais Sibyl Veil, si tu m'entends, on est en direct. Qu'est-ce que tu vas faire? L'augmentation, tu l'auras. Ce matin, lorsque j'ai dit à Lisa Delmoitier que j'avais décidé de prendre cet angle dans ma chronique, Lisa m'a dit deux choses. Un, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée.
Je maintiens.
Par contre, si quelqu'un est ici capable de pouvoir demander une augmentation et de l'obtenir, c'est bien toi, parce que tu es un vrai mec. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a même un peu choqué, tu es capable, toi, de poser tes couilles sur la table. Je vous le dis tout de suite, c'est une phrase qui m'a toujours un peu choqué. Je me dis, mais d'où le fait de faire preuve de courage et s'entend dans le fait de poser, pardon, mais ses couilles sur la table. Et aujourd'hui, on est sur France Inter. Et je me dis que s'il y a vraiment un endroit où on peut expliquer d'où vient cette expression, c'est ici et maintenant. Pour moi, c'est forcément. Merci, Olivier. Du sud de la France. Du sud de la France qu'a jailli cette expression. Je pense que c'est un couple, dans les années 70, où il s'est passé la scène suivante.
Non.
Mon amour, tu ne devineras jamais ce que je vais faire. Et non, c'est normal, je ne suis pas Nostradamus. T'inquiète, je vais aller voir mon patron, je vais lui demander une augmentation. Ton patron, mais tu es complètement fada, c'est fou, il va te couper la tête. Non, t'inquiète, j'ai une idée. Oh oui, mais laquelle? Je vais poser mes couilles sur la table. Oh mon amour, mais tu es complètement fou. Attends. Allez. Et bonjour, patron, regardez-moi dans les yeux.
Oui, je suis là.
Est-ce que je peux avoir une augmentation?
Non.
Ok, pas de problème. Alors, je vous explique.
Et la deuxième
est plus lourde. Vous savez bien que le corps n'est pas symétrique. Vous auriez dû vous en rendre compte à votre faciès. Allez, faites vite parce que ça fait très froid sous le verre. J'ai une augmentation si je remballe. Oui, peut-être. Allez, remballer c'est peser. Putain, c'est drôle ça comme expression. Allez, je remballe mais la deuxième est toujours plus lourde. Putain, c'est drôle, ça fait un cœur. Allez, attendez, au revoir patron. Merci, je comprends, je respecte. Tac, 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 tac. Mon amour, tu ne devineras jamais. Oh non, mais qu'est-ce que tu m'as fait encore? J'ai eu l'augmentation.
attention. Mais tu as fait comment? J'ai posé mes couilles sur la table. Oh, mon amour, tu es un génie. Tu verras que dans quelques années, cette phrase, elle vivra. Elle vivra de montagne en montagne et de vallée en vallée. Et plus tard, pour dire qu'un homme a fait preuve de courage, on dira qu'il a posé ses couilles sur la table.
Ouais. Alors, avant de partir, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais déjà qu'on n'ajoute pas de mépris à cette humiliation, mais je voulais dire que c'était une proposition artistique différente que j'ai faite ce matin, différente de chaque semaine, mais sachez qu'on m'a demandé, et c'est pas une excuse et je ne me justifie pas, mais de venir hier soir pour dépanner. On m'a appelé hier soir pour venir dépanner. Donc j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, et si ça vous a convaincu, je me propose de venir négocier pour l'ensemble de la bande originale.
Merci. Julien Santini.
Et moi, il me fait un peu peur. Toutes les semaines au théâtre de la Gaîté Montparnasse à 19h. Alors, on n'est pas très sûr quel soir. Hein. C'est soit le jeudi, soit le vendredi, ou même le samedi. Et sinon, il sera au théâtre de l'Empire à Ajaccio le 31 mai prochain, en pleine finale de la Ligue des Champions.
Et c'est pas de la composition en plus. Hein.
Merci, Léla, je t'aime.
C'est ça
qui est inquiétant, tu veux dire.
C'est ça qui est beau.
Du Wagner qui est joué dans la pièce, c'est pour ça qu'on se permet cet extrait là. Vous avez l'air étonné, mon cher Lionel.
C'est Tchaïkovski.
Ah bon ?
C'est le
dans la pièce ?
Oui.
Ah bon ? Alors on oublie ça alors. J'ai cru que c'était du Wagner.
Choqué.
Quelle oreille !
Mais quelle oreille ! Enfin, ouais,
le bémol donc au théâtre des variétés du 3 au 21 juin avec nos invités. On va parler de la musique dans quelques instants, celle que vous écoutez dans votre vie de tous les jours, hors de la scène et du théâtre. Et Christophe Dillis sera notre invité pour parler d'éventuelles rivalités dans les orchestres, les grands orchestres. Est-ce que ça existe ou pas ? C'est une véritable art. Mais il y a des ordres bien précis à respecter entre le premier violon, le premier de chaque grade, j'allais dire, de chaque instrument. Il y a le premier violon, j'imagine qu'il y a aussi le premier pour les cuivres, pour les corps, pour les percus.
C'est sûr, mais parce qu'il dirige un peu la section corde. Pour les autres, je ne sais pas.
Pour
les cuivres,
on me dit que ce n'est que pour le premier violon.
Tu sais rien, on te dit rien. On en parlera.
Tu poses des questions musiques à Oldelaf.
On les posera à Christophe Dillis. Voilà. Musique Anne Parillo dans votre vie, vous écoutiez début des années 80 des Pink Floyd. Et Leïla, à ce moment-là, comme l'a dit Oldelaf, elle a fait Delon avec Delon.
Absolument. Pour la peau d'un flic et le battant, Alain Delon vous confie vos premiers rôles. Le premier rôle important, en fait, de votre carrière dans ces deux films-là. Vous gardez quel souvenir de la direction d'acteur d'Alain Delon ?
Une école d'excellence, forcément. Une école, en fait, c'est un insatisfait chronique, et je pense qu'il me l'a transmis, malgré lui. Et donc, quand on est insatisfait à ce degré-là, on est dans une quête de perfection absolue en permanence.
On n'est jamais heureux, alors.
On n'est jamais heureux. Et que c'est le travail acharné, en fait. Donc, même si on réussit quelque chose, la seule chose qu'on aura comme compliment, ça sera c'est que le début, ou te rassure pas, ou...
Où l'excellence est normale, en fait. C'est-à-dire que c'était parfait, donc c'est normal.
Absolument.
C'est pas vraiment un mode de conduite de jouissance de l'existence, quoi.
Non, mais il l'a toujours revendiqué comme ça. Hein.
Non, mais
c'est
du coup, vous, être contaminé par ça, est-ce que c'est...
Parce que... Alors après, je me suis souvent posé la question de est-ce que on est effectivement influencé par les écoles, ou est-ce qu'en fait ça tombe en phase avec ce qu'on est profondément, et finalement il ne fait que développer et épanouir quelque chose qui était présent. Donc je pense que j'appartiens plus
à cette famille-là,
la comédie. Ouais. Ça devait pas être pour
moi. Pourquoi ce titre des Pink Floyd vous fait penser à cette période de votre vie?
Parce que pour moi c'est vraiment un cri de révolte, quoi. C'est pas une chanson, teacher, c'est un hymne à la révolte.
Oui, c'est et Teacher, Leader, Keep the Land, c'était sur l'éducation, en fait.
Exactement, sur l'autorité. D'accord. Et comment cette chanson donnait la voix à tous les gens qui se sentaient étouffés sous une autorité à tous les degrés, et une non-acceptation de la différence. Et,
donc pas que les professeurs, mais aussi les réalisateurs, mais aussi les ordres que l'on vous
donne. Oui, bien sûr, c'est une métaphore pour toute
forme d'autorité.
Exactement.
Lionel Abelansky, dans ces années, vous écoutiez... Les Talking Heads. Ben
ça y est, Wagner, là, on dirait.
Ah ben, non,
c'est bien, les Talking Heads.
Très différent, ça reste très rock. Hein, David Byrne, excellent artiste, multi-talentueux. On est en 84, Leïla.
Et on vous retrouve à Boulogne-Billancourt, chez Aquitaine System.
Ouais.
Où vous êtes comptable.
J'étais comptable pendant 3 ans et j'allais au cours Florent le soir. Ouais.
Donc comptable le matin, vous arrivez au bureau, vous faites quoi, 8h, 18h
8h, 17h, c'est ça, ouais, 8h.
Avec joie ou pas?
Pas vraiment avec joie, mais je n'avais pas le choix. Et puis, j'étais dans une société assez jeune, en fait, parce qu'il y avait plein d'informaticiens et c'était un peu le début.
Oui.
Et voilà, donc je traînais un peu de bureau en bureau. On allait fumer des clopes dans le...
Ah, bah,
on avait le droit de fumer dans le bureau à l'époque.
Ah ouais, ouais, d'accord. Et donc, ensuite...
Comme quoi, tout n'était pas mieux avant.
autre vie, après, du coup,
et
le
autre
soir,
vie, donc,
quoi.
Le soir, j'allais au cours de théâtre et au cours Florent. Et après, on sortait, on allait boire des coups. Et le lendemain, je retournais très tôt à Aquitaine System.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté un moment à Aquitaine System?
L'alcool.
J'ai eu le cours gratuit.
Ah, voilà. À Florent?
Chez Florent, j'ai eu la classe libre. Et ce qui n'était pas du tout un argument, parce qu'il fallait quand même continuer.
Bah, c'est un argument de qualité, on ne va pas se mentir.
Oui, mais c'était pas du travail, c'était d'accord. Juste, je ne paye plus le cours.
89-90, Anne Parillo, vous écoutiez les Cure. Vous avez eu votre période No Future?
Ça, c'est Nikita. C'est la musique que j'ai écoutée non-stop pendant tout le tournage.
Ça vous mettait dans un état particulier?
Ça me mettait dans un état, vraiment, de quelqu'un qui est dans une noirceur et dans un enfermement et dans une solitude. Et voilà, je trouve que cette chance... D'abord, j'étais absolument fan du chanteur et j'adorais cette prise de risque qu'il prenait. C'était les premiers qui se maquillaient, qui étaient un peu comme ça, on ne savait pas trop, c'était flou. Et j'adorais ces visages blancs, maquillés.
Et ils sont revenus avec 2 albums cette année, à la surprise de tout le monde, les Cure, en tête d'affiche.
Et là aussi, Leïla. Un personnage qui a une double vie, un peu comme Lionel Abelansky, quoi, comptable le jour, acteur le soir, qui vous vaut le César de la meilleure actrice pour votre interprétation, Anne Parillo. Luc Besson dit que c'est votre personnalité qui l'a inspiré pour écrire ce scénario.
Il le dit. Je sais pas comment je dois le prendre.
Ouais, plutôt bien,
personnage
je crois
qu'il a écrit. Je pense que c'est parce que
un joli cadeau.
Oui, non, évidemment. Mais je pense que effectivement, il doit y avoir quelque chose d'un peu retenu et secret chez moi qui crée malgré moi un mystère et que sur un mystère, on peut inventer et fantasmer tout ce qu'on veut.
Et vous voyez mystérieuse?
Ben non plus, mais moi je ne me vois rien de ce que les autres me voient, donc...
Ni drôle, ni mystérieuse.
Ni drôle, ni mystérieuse.
Vous ne vous êtes, si je peux me permettre, jamais exprimé, ou alors j'ai raté la déclaration, sur Luc Besson lorsqu'il était attaqué?
Ben d'abord parce que j'ai ma fille avec lui, et que donc je respecte la filiation, le père. Et puis parce que moi j'ai une autre façon d'aborder tous ces mouvements que je partage. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer artistiquement, et je préfère le faire à travers l'écriture ou à travers des rôles, où il y a un floutage d'une réalité par rapport à un mouvement plus universel. Et je préfère en parler de manière plus universelle que personnelle.
Lionel Abelansky, dans ces années, vous écoutiez Jacques Higelin.
Tomber du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage.
Et pourquoi cette chanson à ce moment-là?
Parce que c'est un artiste, moi, qui m'a...
C'est un poète,
éclaté,
Jacques Higelin.
Que c'est les plus beaux concerts que j'ai vus de ma vie. Et ça m'a énormément appris.
Qui n'en finissait pas dans la nuit.
C'était, oui, parce qu'il parlait, c'est-à-dire qu'il se mettait à improviser.
Zéro contrainte.
Et, en allant le voir, je l'ai vu plein de fois. Et j'ai découvert la liberté, quoi, sur scène, d'un type qui faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire qui cassait les codes, qui faisait aussi bien du one man show que de la musique, qui passait dans les rangs, qui parlait aux gens j'étais fasciné.
Et qui mettait le public en transe. Pour l'anecdote, vraiment anecdote musicale, Patrick Bruel a composé Casser la voix en sortant d'un concert d'Higelin, en restant jusqu'à 3-4 heures de concert et a hurlé pour soutenir Higelin, et donc il n'avait plus de voix, il n'avait pas envie que ça s'arrête, et ça commence par j'ai pas envie de rentrer ce soir.
J'ai un souvenir extraordinaire avec Jacques Higelin pendant un concert, c'était à la Grande Halle de la Villette, c'était cette tournée-là. J'étais avec mon ami d'enfance, mon meilleur ami, et Jacques Higelin passe devant nous. Et en chantant et en parlant et en regardant les gens et en s'arrêtant, et il passe devant mon pote, devant moi, devant mon voisin que je connaissais pas, et il lui dit
tu sais que t'as vraiment une gueule de con. Oh. Avec mon pote, on s'est regardé, on a fait. Ok. Forcément, les lumières étaient sur nous, mais c'était dans une chanson. C'était pas pour se moquer de la personne. C'était
Non, parce que c'était
sa folie.
Exactement. C'est pas le genre de Jacques Higelin.
Il n'était pas agressif.
On rejoint ce que disait tout à l'heure Anne Parillo sur l'autorité. Il n'aimait pas l'autorité. Il n'aimait pas les contraintes. La contrainte de faire des chansons de 3 minutes ou de 4 minutes, il aimait pas ça. Et lorsque j'avais la chance de produire les Victoires de la Musique, et il était nommé aux Victoires de la Musique, il répète sa chanson, et la chanson fait 6 minutes. Et donc je me permets, parce que j'avais fait beaucoup d'émissions avec lui, d'aller le voir en lui disant, Jacques, c'est super, mais 6 minutes, tu vois, il y a 30 chansons qui doivent passer dans la soirée, chaque fois on nous dit qu'on finit à 1h du matin, est-ce que tu peux faire plus court? Ouais, pas de problème. Ah, il se recoiffe comme ça, évidemment, d'une manière...
Il a reçu Columbo aussi.
Pas de problème, ouais, pas de problème. T'inquiète. Et il a fait 9 minutes. Wow. C'était sa réponse.
Et il s'est pas rendu compte.
Mais c'était cette personnalité-là. Évidemment. Et c'est pour ça qu'Higelin est un très très grand. Et il était dans une liberté absolue.
Et qui nous manque, absolument.
Eh bien, oui. Et à cette époque-là, c'est ça, je dois revenir à Léonel Abelansky. Pardon.
On a fait une grande parenthèse, Higelin, c'est vrai.
Non, on vous retrouve au théâtre, à ce moment-là, dans Un mouton à l'entresol de La Biche. Et puis aussi au cinéma, sous le regard de Colin Serrault.
Et absolument, c'était un peu lié parce que c'était Gilles Cohen qui faisait la mise en scène et qui avait fait le casting du film de Colin Serrault. Et donc c'est la première fois que je faisais du cinéma et je parlais trop fort parce que j'avais appris le théâtre. J'avais deux répliques dont je m'en rappelle encore.
C'est quoi?
Et c'était moi j'en ai mangé parce que j'avais une intoxication alimentaire.
Après on peut crier dans ces moments-là.
Voilà, moi j'en ai mangé et donc c'était un journaliste qui m'interviewait et moi j'achète toujours du blanc lait. Voilà, c'était ça. Et Colin Serrault me disait. Tu parles trop fort.
Nous allons revenir à la pièce de théâtre, au Théâtre des Variétés, donc le bémol du 3 au 21 juin prochain. Cette pièce portée par Anne Barillo, Léonel Abelansky, Pascal Légitimus, Anne-Sophie Girard, Bertrand Mounier et Soleil, mise en scène par Anne Bouvier. Avec vous, Christophe Dielis, bonjour et merci de nous rejoindre à ce micro. On voulait éclaircir 2-3 trucs sur ce qui se passe dans les orchestres. Alors, j'ai dit qu'il y avait un premier violon qui donnait les ordres, entre guillemets, aux autres violons. Est-ce qu'il y a aussi un premier clavier, un premier percussion, un premier cuivre, un premier vent, que sais-je?
Oui.
C'est une armée, en fait, les orchestres philharmoniques.
Bah, effectivement, déjà, c'est vrai que le violon solo s'occupe de toutes les cordes, s'occupe vraiment aussi principalement de son pupitre de premier violon. Ouais. Chez les vents, ça diffère d'orchestre en orchestre, mais chez les vents, le hautbois solo, on va un petit peu gérer tous les bois. Je me souviens d'une série d'orchestres qu'on avait fait, on était en fosse, et on avait un premier hautbois qui était insupportable, qui, évidemment, il gérait son pupitre, et évidemment, il s'est craqué au concert, on était tous très très contents, juste parce que...
Okay. Ah, la grande famille
le collectif, parce que s'il se craque, c'est-à-dire il se plante...
Bah oui. Bah, en fait, oui, une note...
C'est tout le monde...
On est très cruel dans ce monde-là, quand même.
Ah, waouh, le collectif, c'est vrai, un faux collectif.
Et vous dites ça avec un sourire.
Oui.
C'était ça, la question. Comment faire vivre? Ils sont quoi, une cinquantaine?
Et ça peut aller jusqu'à 80.
C'est la différence entre symphonique et philharmonique, c'est ça?
Non, symphonique et philharmonique, c'est la même chose, c'est simplement le statut qui diffère. C'est qu'on a des
cordes
et des
vents. Je pensais que c'était le nombre d'instruments et...
Ouais. Philharmonique de réputation, c'est beaucoup plus grand que symphonique, mais en fait,
c'est ce que je
techniquement, c'est la même chose. C'est plus une question de statut associé.
Alors, comment justement à propos de statut, comment gérer les égos, comment gérer les notoriétés, comment gérer les
mal. Ça, pour le coup, c'est génial parce que c'est quand même 80 artistes. Qui ont chacun leur vécu, qui ont des années de conservatoire très différents. Qui se retrouvent à
pas
jouer...
Pas le même âge, pas les mêmes références.
C'est ça, on peut avoir un corps solo qui a, je sais pas, 22 ans et qui est entouré de 4 corps qui ont 40 ans, 50 ans, mais...
Ça reste jeune.
Ça reste absolument...
4 corps, ça fait un peu macabre comme description.
Oui.
Oh là là.
Mais à l'aune d'un instrumentiste, j'imagine que cet écart d'âge, là, ça doit être mal vécu quand...
Sur les colonnes d'air, sur la puissance musicale, j'imagine que musculairement, ça joue aussi, non?
Ça joue aussi, mais dès la première note, en fait, si la personne a remporté le concours de corps solo, c'est qu'il est, surtout de nos jours, excellentissime. Donc en fait,
ça installe un rapport de force, ça installe des salaires différents.
Alors ça, c'est sûr qu'il y a une grille de salaires qui est assez établie. Ça, en France, on a des catégories, on a A, B, C, D. On n'est pas tous payés pareil, parce qu'on ne fait pas tous le même métier aussi
par
dans
contre,
l'orchestre.
Homme-femme, oui.
Homme-femme, oui, ça c'est sûr. Si on est second violon dans le rang...
C'est à saluer, que ce soit la même
absolument.
Chose pour un homme et une femme.
Et la question de la parité dans les orchestres, en France, on est en excellente santé, pour le coup. Mm.
Vous êtes chef d'orchestre, vous devez, quand vous vous mettez dans la situation, la baguette à la main, vous vous dites... vous dites quoi, d'ailleurs? Non, parce que j'avais oui. 3-4 solutions, mais c'est pas un QCM non plus. Donc...
Bah, ça dépend de la partition qu'on a, ça dépend aussi du vécu qu'on a avec l'orchestre. Ouais. C'est que si je dirige pour la première fois un orchestre que je ne connais pas, je vais un petit peu avoir tendance à en faire beaucoup, à dire des choses extrêmement intelligentes et malines.
Pour affirmer votre position de chef?
Mais absolument. Mm. Et si je tombe, parce que ça peut arriver de tomber sur des musiciens un peu chiants qui... ah, tu veux ça? Ah, tu veux qu'on fasse un crescendo aussi?
C'est ton truc, toi.
Ça. Ah oui, voilà, mais c'est exactement ça.
Ah, tu le vois comme ça?
Tu le vois comme ça?
Ok. Ah, mais
voilà, c'est
ton choix.
Et on a une sorte de film muet devant nous, ah bah très bien.
Monsieur croit que c'est ce qu'il faut faire. Bah faisons-le, puisqu'il est chef.
Voilà,
c'est
ça.
Voilà.
C'est un endroit de domination comme un autre, quoi, en fait, un orchestre.
Je préfère le voir comme travailler ensemble. Parce
oui.
que
sauf que ça y ressemble quand même pas beaucoup.
Non, c'est une...
C'est une
armée.
Non,
en plus.
Ça dépend dans quel cas. Ça dépend qui compose l'orchestre, en réalité, des humeurs.
Et puis, en fait, on est tous des employés. On est tous des employés, chefs comme musiciens, et on est au service du public.
Oui.
Donc, à la fin, si le chef a besoin de mettre les musiciens à l'aise pour avoir un meilleur résultat musical, il va le faire.
Pour avoir vécu quelques situations avec différents orchestres importants, par moments, j'ai l'impression que c'est pas toujours le chef d'orchestre qui est le chef. Il est obligé de composer aussi avec des clans au sein de l'orchestre, non ? Qui peuvent avoir le pouvoir de nuire.
En termes de syndicat
oui.
ou...
En termes de tension, en termes de... Ouais. Bah, c'est la pause, en termes de toutes les deux heures, je m'arrête.
C'est très codifié.
Ça, c'est sûr. Des fois, on va être dans un moment ultra tendu et on trouve des moments, on trouve des solutions musicales qui sont géniales et on se dit « Ah, ça y est, on a enfin compris Monteverdi ». Et puis, il y a quelqu'un qui vient vers nous et qui nous chuchote à l'oreille. Il y a le chœur qui doit faire sa pause maintenant.
Ouais.
Et on est là sur le point de trouver la solution musicale. Et bon, bah, 20 Break. Minutes, s'il vous plaît, quoi.
Ouais, c'est ça. Oui. Ça, c'est très rigide.
Mais parce que c'est un métier aussi. On le fait tous les jours. Et
il y a plein d'autres métiers. Par exemple, si l'orchestre est prévu, je sais pas, de 17h à 23h, à 23h01.
Ouais.
L'orchestre dit c'est terminé. Il y a plein de métiers où, alors ça veut pas dire que c'est pas bien, hein.
Ouais.
Il y a plein de métiers où 23h01, c'est 23h01, ben ça sera 23h10. Et c'est très, quand on est confronté pour la première fois, moi ça a été le cas pour les victoires de la musique classique.
Parce
qu'en plus,
présenté,
ça coûte de l'argent en plus après,
ouais.
parce que, voilà, pour la production. Et c'était très très clair. Et c'est annoncé dès le départ.
Ouais.
Très simplement. C'est clair.
C'est vrai que ça peut un peu faire bizarre de l'extérieur ou ça peut un peu froisser. On se dit, mais que c'est des artistes qui s'arrêtent à 23h, est-ce qu'on a plus d'art en nous à 23h, mais c'est un métier.
Oui, il faut respecter
la pause est toutes les 2 heures, c'est ça?
Ça dépend des orchestres, mais
des services, ouais.
Ouais. De toute façon, au bout de 2 heures.
Mais ça se négocie. Oui, ça se négocie. Sauf que quand on fait des émissions qui durent 3 heures, c'est difficile de leur dire revenez vite au milieu. Dans les idées que l'on a, les préjugés que l'on a sur le chef d'orchestre, il est censé savoir jouer de tous les instruments ou pas du tout?
Il est censé pouvoir dire à son instrumentiste, tiens, tant pis pour les hautbois, on en parle beaucoup, mais là, c'est pas la bonne hanche, par exemple. Ou il peut dire à son corps, à son corniste, là, il faut que tu mettes plus d'air, ça bouge dans tous les sens. Et il est censé avoir des éléments techniques. En général, c'est des cordes, d'ailleurs, les chefs,
d'accord.
ou des pianistes.
Okay.
Et là... C'est très important d'être corde pour pouvoir dire tirer ou pousser pour le coup d'archer, parce que musicalement, c'est ça que je veux.
Que fait un chef d'orchestre s'il entend une fausse note?
Il s'en va.
Non, parce que c'est le sujet de la pièce de théâtre.
Ouais,
donc,
ouais.
Est-ce
qu'il
se sent trahi? Est-ce qu'il a l'impression que qu'on lui a mis une épine dans le pied en disant, bah tiens,
C'est bah en fait, c'est ça qui est marrant dans la pièce, c'est que je dévoile rien du tout évidemment, mais je trouve que dans les premières minutes, quand le chef dit ah mais c'est ma réputation qui est en jeu, tout ouais. ça, oui et non, parce que on va quand même se dire c'est le violoniste qui a chié un peu dans la colle. C'est pas,
oui, mais faut, c'est le choix du chef. Il faut s'y connaître pour ça. Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes spectateur, il faut quand même que ce soit vous qui êtes en capacité de repérer
absolument.
Qu'il y a une faute, et c'est là où est le problème.
On n'imagine pas que le chef d'orchestre puisse mal diriger, en revanche.
On peut se sentir, ouais, on peut se sentir gêné par quelque chose sans savoir d'où ça vient.
Oui.
Finalement, et en disant, bah, c'était pas terrible. Oui.
Mais... Bah, en tout cas, c'est.
Bah, souvent, c'est un de la fin.
C'est un musicien. Ouais. Est-ce qu'on peut vous l'emprunter, d'ailleurs, sur France Musique?
Ah, mais prenez-le. Non, mais c'est pas un prêt. C'est pas.
Qui vient de faire. On le garde, on le garde.
Christophe Dillis, producteur à France Musique, j'ai oublié de le dire, présente tous les lundis le concert du soir à 20h, chef d'orchestre donc de l'Orchestre Symphonique Interuniversitaire de Paris depuis septembre 2020. Merci.
Exactement, et très heureux d'avoir été invité. Merci.
Ravi, bah, vous revenez quand vous voulez. Merci mille fois. On aura Daniel Morin et Tanguy Pastureau dans la prochaine demi-heure. De quoi vas-tu parler, Tanguy ?
Je parlais du comté, ce fromage crée la polémique actuellement. C'est quasiment la guerre, Nagui.
Eh ouais, c'est
quasiment la guerre.
Anne Parillo, Lina Labensi sont des invités jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Leïla Kadouboudadi, avec Lisa Delmoitier, Oldolaf, Tanguy Pastureau, Julien Santini, bonjour. Et Daniel Morin.
Bonjour, Julien.
Et nos invités, Anne Parillo et Lionel Abelanski.
Bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Anne Parillo et Lionel Abelanski qui sont au Théâtre des Variétés en compagnie de Pascal Légitimus, d'Anne-Sophie Girard, de Bertrand Mounier et de Soleil. Tout ça pour jouer une pièce de Cyril Massarotto. C'est la première fois qu'il écrit cette pièce, mise en scène par Anne Bouvier. Vous en êtes, donc on rappelle le pitch de la pièce, un chef d'orchestre qui attend d'être nommé, de recevoir le Nobel des musiciens classiques. C'est pas vraiment un Nobel parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, alors que les prix Nobel, généralement, c'est il n'y a pas beaucoup d'argent, je pense, dans les Nobel. Non, c'est le Goncourt, il n'y a que 10 euros.
Non, c'est le Goncourt, il y a 1 euro.
1 euro. Au Goncourt,
c'est un million.
Ah, bah, c'est un peu moins d'un million, le Nobel.
Nobel, c'est un million de dollars.
Moi, j'aurais dit. Excusez-moi, personne ne l'a eu ici.
Ok. J'aurais dit 800 000 euros.
Trop de taf.
C'est le Goncourt. Le Goncourt, c'est 1 euro.
D'accord.
Symbolique.
Le Goncourt, c'est 1 euro symbolique. Alors là, c'est plus le Nobel que vise le chef d'orchestre en question. C'est une très grosse somme d'argent qui est en jeu s'il est élu par ses pairs comme étant le meilleur dans la musique classique du moment.
Il n'y a pas de Nobel de musique
Non, c'est une fiction, c'est une pièce de théâtre.
Ah oui, d'accord,
merci
d'accord.
beaucoup. Tu peux
Non, mais je crois que le prix le Nielsen
existe.
Il existe dans le monde classique, il n'existe pas ? Parce que j'ai posé la question.
Ah bon ? Exact, il existe.
C'est bien, parce que personne ne sait rien.
Non, tu dis n'importe quoi. Julien...
J'ai envie d'aller dans votre sens, Anne.
Il dit n'importe quoi. En tout cas, il y a un prix, que ce soit réalité ou fiction, qui est en jeu dans cette élection. Et il a peur, finalement, qu'une note qui n'était pas à sa place, puisque Oldolaf nous a bien expliqué à la pause qu'il n'y a pas de fausses notes, il y a simplement des notes qui sont ou pas à la place. Et là, en l'occurrence, cette note-là, ce bémol-là, n'était pas à sa place à la fin du concert. En plus, c'est le seul souvenir... C'est la seule résonance avec laquelle on reste à la fin du concert. Et là, le gars se dit, c'est un attentat. Il a voulu tuer mon concert. Il a voulu tuer ma réputation de chef d'orchestre. Et donc, éviter que je reçoive le prix tant attendu. Leur amitié qui a des décennies, plusieurs décennies d'histoire, au point d'être même presque pas le colocataire, mais en tout cas voisin dans un même immeuble, avec une femme qui sombre dans l'alcool, ou du moins qu'il essaye d'éviter, en tout cas, parce qu'il se dit, chaque fois qu'elle elle risque de dire des bêtises. Il a peur finalement de votre franchise. C'est ça ?
Bah oui. Oui, il est habitué.
Elle dit tout ce
qu'elle pense. Il est habitué. Je pense que de la même façon qu'elle accepte ce personnage qui est ultra égocentré, infernal, insupportable, ils s'acceptent en fait l'un l'autre vraiment dans leurs anomalies et dans leurs failles. C'est...
Alors ça, c'est le premier couple, Pascal Légitimus, c'est vous. L'autre couple, c'est vous avec Anne-Sophie Jarre, qui est une influenceuse très youtubeuse et qui fait des chorégraphies, qui prône la zénitude, mais qui va se permettre, entre guillemets, parce que c'est pas les codes non plus dans le public d'une musique classique, d'inventer des chorégraphies, de partir en sucette. On voit très bien Anne-Sophie Girard d'ailleurs, faire tous ses gestes et ses chorégraphies. Elle a cette finesse du corps et cette manière de bouger. Je rappelle que Anne-Sophie avait co-signé avec sa sœur un très bon livre qui est La femme parfaite est une connasse, que je recommande à tout le monde, qui est extrêmement drôle.
Et là, je crois que c'est un esprit ouf dans un corps bof.
C'est ça.
Exactement. L'esprit pas ouf dans un corps bof.
Voilà.
C'est ça.
Ils
sont forts. Et puis donc, ce clash-là va faire finalement ressortir toutes les rancœurs, toutes les tensions, les rapports d'amitié, les rapports de force dans cette amitié aussi.
De dépendance.
Voilà, et le rang social de l'un et de l'autre. C'est une vraie bonne comédie qui démarre le 3 juin, qui finit le 21 juin, en attendant plus si affinité. Mais à n'en pas douter, ce succès sera au rendez-vous pour reprendre en septembre. Pour l'instant, dépêchez-vous d'y aller. Voici Tanguy Pastureau.
Hier, je regardais Emmanuel Macron répondre sur TF1 à Thibaut InShape en me disant « Ok, en fait, nous avons été aspirés dans un univers parallèle où tout est possible. J'attendais l'entrée sur le plateau de Kelly Vedovelli, La Vache Kiri et Pikachu. » Quand soudain, Daniel Morin, alors que je venais de finir mon plat, m'apporte à table du fromage. Parce que le malheureux qui vient de faire 4 fois le point virgule réalise que dans le spectacle, moins de 8000 personnes dans la salle, tu fais ça pour le fun. Il est donc ruiné. C'est pourquoi je lui ai proposé de faire des extras pour moi. Il était contre au départ, mais le fait que je lui ai proposé de faire ça tout nu l'a convaincu. Daniel donc entre dans ma salle à manger, nu, avec le plateau de fromage. Je le remercie, parce qu'il faut toujours bien traiter le personnel, puisqu'en cas de révolution, il s'en souvient et ne vous coupe pas la tête. Là, Daniel pousse un cri de douleur. Je me rends compte qu'à cause de mes problèmes de vue, j'ai confondu son sexe avec la bûche de chèvre. Je trouvais ça bizarre qu'il fasse des mini-bûches, mais je m'étais dit, ça devait être pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Puis il part se recoudre, parce que, comme couteau, j'ai des layoles. Et là, je regarde ce qu'il m'a mis. Du brie à la truffe, du camembert, un Saint-Marcelin, que de la pâte molle. Je crie, pauvre con, t'as oublié d'en mettre un pâte dure. Depuis la salle de bain, il me répond qu'il saigne. J'envoie Julien Santini, qui fait aussi des extras pour moi, s'occuper de ce problème, et je me rends à la réserve à l'autre bout de la villa. J'ouvre le frigo, ouf, il est là. Je le vois, un morceau de comté. Leïla Kaddour, que j'ai prise en extra pour faire mes courses, parce que le GT de France 2, le salaire est pas ouf. Hein. Je rappelle que Leïla fait du Bélier, Anne-Claire Coudray de TF1, elle se déplace en hélico. Bon. Leïla a pensé au comté. Je reviens à table, et là, Nagui, que j'ai pris en extra, pas pour l'argent, il en a, mais juste pour assouvir ce fantasme malsain qu'il a de me servir habillé en soubrette, bon, me dit « Ah non, pas du comté !» Il trempe de tout son corps, ce qui fait remonter sa petite jupe le long de ses cuisses. Il ajoute « Le comté, c'est mauvais pour la planète !» Exaspéré, je congédie le personnel. Daniel, qui a déjà perdu 12 litres de sang, ressemble à une crise hémorroïdaire. Et c'est là qu'Oldelaf sort de dessous la table. Oldelaf, je ne le paye pas, personne ne fait ça. Et il me dit « Le calembour de la pub de 1987, le comté, on l'aime sans comté, c'est de moi, j'avais 13 ans, c'était mon premier job. Quand je pense qu'aujourd'hui, ce fromage divise, me dit-il. » Je me précipite sur Internet, je tape compter et je risque en effet... C'est devenu un sujet de crispation. Ce fromage tout con, depuis 5 jours, fait polémique. J'étais passé à côté, hein, mais il y a un hashtag. Touche pas au comté. C'est comme touche pas à mon pote à l'époque, mais pour ceux qui refusent qu'on stigmatise le fromage. La France est coupée en deux. Ça va se finir en guerre civile. Il y a les gens de droite et les fans du comté qui reprochent aux écolos de vouloir l'interdire. Mais ça va très loin. Julien Odoul du RN s'est fait prendre en photo en train de lire un magazine sur le comté. Par exemple, ça existe. Il y a des photos d'énormes meules. En fait, c'est le Playboy du fromage. Laurent Wauquiez, le sosie fit du Captain Iglo, a tweeté « Vive le comté !» Lui, il a passé 16 ans à se planquer avant de faire le comeback le plus débile de l'histoire. Hein, il veut envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon et aime le fromage. Voilà, je pense qu'à TF1, ils ont pensé à lui pour interviewer Macron avant de se dire « Non, on va prendre quelqu'un avec un niveau de réflexion plus poussé, Thibaut InShape !» En face, Marine Tondelier, cette dame qui n'a qu'une veste, en plus de celle qu'elle prend aux élections, bien sûr, a été prise en photo en train de manger du comté. Et tous ces gens, vraiment, veulent gouverner la France. Non, mais je veux dire, c'est pas un sketch du Palmacho, il avait été arrosé de fric par les producteurs du Jura. C'est notre classe politique actuelle. À un moment, moi je veux bien aller voter, hein. Mais si c'est que pour des clowns, vous faites ça chez McDo en même temps que l'anniversaire des gosses. J'ai compris que le comté était le symbole des traditions de ce pays et que toucher aux traditions, c'est être un mauvais français. Nagui, juste en ne mettant pas de vache elle dans Interville, a déjà été banni de 184 communes. C'est tout le sud-ouest, il peut plus y aller. Un week-end à Dax pour lui, c'est aussi périlleux que de traîner à la frontière indienne avec un t-shirt « Les meilleurs sont à Islamabad ». Or, l'histoire ne parle pas d'interdire le comté. C'est juste 3 écolos et demi qui ont émis des doutes sur l'impact environnemental de la production de comté. Et là, c'est parti en toupie. Le Figaro, qui doit être noyauté par les pro-comté, les traite de Khmer vert. Au départ, le Figaro, c'est un journal plutôt posé, lu par des gens à souliers à gland qui attendent les enfants de retour du stage de voile. Mais le comté, ça a été leur ligne rouge. Ils ont péter un câble. Si en plus tu critiques le chabichou, ils forment des milices. Que disent les écolos? Que la production du fromage a un impact. Bah oui. Les vaches qui passent la moitié de leur vie à avoir des gaz à cause de l'herbe, ça fait la même chose avec les rappeurs. Il n'y a plus une émission de France Inter qui veut en recevoir. Émettent du méthane. Leurs déjections partent dans des cours d'eau, etc. On connaît ça par cœur. Par cœur, dans certaines régions, ça finit sur les plages en algues vertes qu'on doit en partie aux déjections des cochons. C'est pour ça qu'il n'y a pas un musulman dans l'eau. Si vous êtes islamophobe, visez un Airbnb dans la baie de Saint-Brieuc. Ah bah vous allez être nickel. Et puis les personnes qui ont émis un doute sur le comté sont des animalistes. Or, dans le comté, il y a de la présure, un extrait de l'estomac de la vache, parfois du veau, le bébé, qui permet de faire coaguler le lait pour fabriquer le fromage. Donc ils sont dans leur rôle. Je veux dire, écoutons-nous un peu tous. Je veux être le rassembleur de ces deux France. 2027, je la sens de plus en plus. C'est là qu'hier, j'ai réalisé que je disais ça à haute voix. Daniel s'est approché de moi, il m'a dit « Tu as de la chance, moi je sens plus rien. » Je lui ai tendu un bout de comté, il a hésité. Il a eu peur que ce soit un marquage politique trop net. Alors je ne vous dirai pas s'il en a mangé ou pas, parce que c'est vraiment trop intime.
Merci voilà. Tanguy Bastiaud. Et saluons Pierre Rigaud, parce que c'est une chronique d'Inter qui a lancé cette polémique autour du comté. Tanguy, il est où, Tanguy, avec son comté?
Si tu me laisses en placer une, je pourrais dire qu'il est près de Saint-Malo, à Pleurtuyer, ce sera le 24 mai.
Très bien. Sur scène, donc, cette pièce, le bémol, au Théâtre des Variétés, autre événement culturel, Leïla.
Depuis le 30 avril, vous pouvez voir le combat des chefs, orchestré par Alain Chabat.
Une réussite.
Cette série animée, en effet, qui vous permet de revivre les aventures de nos héros préférés. Eh bien, il y a eu une annonce dans ce contexte. De quoi s'agit-il?
Ah zut. D'un film réalisé par Alain Chabat.
Pas d'un film.
Une autre série?
Une autre bande dessinée.
Ouais.
Il va écrire le prochain Astérix.
Il va dessiner le prochain Astérix.
Non. Et il va colorier le prochain Astérix.
Non, il va pas acheter, complètement l'écrire.
Il va changer les noms.
Il sera un personnage.
Non, pas un personnage, pas le réaliser.
Alain Chabax.
Alain Chabax, ça serait drôle. C'est une déclaration d'Anne Goscinny. Concerne, en effet, Alain Chabat.
Il va faire une BD? Il va faire
soyons plus précis.
Il va écrire les dialogues.
L'adapter.
Ouais.
Il va l'animer.
Mais à partir de quoi?
Alors, d'idées fixes et plus d'Astérix et Obélix.
Il y a déjà eu ces albums.
Alors, je vous le donne.
Bah oui.
À partir de pages retrouvées de René Goscinny.
Ah ouais, c'est collector, ça.
Et ouais, là, c'est une aventure assez folle. Anne Goscinny a retrouvé une vingtaine de pages d'Astérix au cirque. Donc, une aventure inachevée. Probablement que son père était en train d'écrire au moment où il est décédé. Et
on rappelle que Goscinny, c'est celui qui écrivait les histoires et pas qui les dessinait. Donc, ce sont
c'est un récit, c'est un texte.
Un scénar.
Absolument. Ouais, 20 pages comme ça, grattées. L'idée, c'est que s'il fallait confier la suite de ces 20 premières pages à quelqu'un, pour Anne Goscinny, dans l'esprit, ce serait Alain Chabat. Alors, rien n'est signé. Alain Chabat est très tenté et en même temps, il dit, ça dépasse le stade de la responsabilité parce que là, c'est quand même une sorte de monument que vous avez sur les épaules. Rien n'est signé. Il discute. En tout cas, il dit que les 20 premières pages sont déjà géniales et qu'il a des idées, bien sûr, qu'il ne sait pas où René Goscinny aurait pu entraîner cette histoire.
Tu l'as vu la série sur Netflix ou pas?
J'ai vu des extraits.
C'est dingue.
Ouais.
Non, mais c'est tellement intelligent de respecter l'esprit de Goscinny et d'Uderzo et de réussir à moderniser en même temps efficace.
Mais alors là,
il est
c'est
totalement
tout
capable,
Chabat. Vas-y,
Alain, vas-y, lâche-toi, Alain, fais-le.
Ouais. Allez. Alors, c'est pas signé aussi, parce qu'il y a plein de raisons, j'imagine. Il y a plein de.
Mais il n'y a pas stylo, mais dès qu'il a stylo, il va
voilà,
signer.
Voilà. Est-ce qu'il y a comme ça je ne sais pas, là, on parle d'une BD qui renvoie à chacun de notre enfance, en fait. Je n'ai pas pu faire cette phrase correctement.
Non, c'est pas grave, on a compris le sens.
Pardon.
Donne les pages à Alain Chabat, il en fera une question.
Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une bande dessinée, un roman, quelque chose comme ça, qui vous a tenu tout au long de votre enfance, qui revient?
Alors, enfance, moi, rien ne me revient vraiment. Mais je sais que je lisais très, très peu. Et que Delon m'a dit, c'est pas possible, tu ne peux pas passer ta vie sans lire, c'est indispensable. Et il m'a dit, je vais te donner le livre qui va tout déclencher. Et il m'a fait lire un livre qui était un pavé, qui s'appelle « Les oiseaux se cachent pour mourir » de Colline Maculot. Et quand j'ai vu le livre arriver pour quelqu'un qui lit pas, je me suis dit, bon,
c'est trop épais.
Il abuse, il fait exprès. Et en fait, j'ai adoré cette histoire, et ça a tout déclenché. Et c'est vrai que ça a été vraiment un point déterminant chez moi, cette lecture.
Et vous, Lionel?
Ouais, les Astérix, bien sûr, et les Tintins.
Et ça me renvoie à un endroit où je les lisais, en fait, c'était chez ma voisine, en dessous de chez moi, qui me gardait.
Oui.
Et je vois très bien, c'était une petite pièce où il y avait énormément de BD, parce qu'il n'y en avait pas chez moi. Mm. Ma sœur en avait quelques-unes, mais j'étais petit, et eux avaient toute la collection, donc c'était un bonheur chaque fois d'y aller et de découvrir un nouvel épisode.
Alors, puisqu'on est dans les souvenirs, Leïla, tu évoques Astérix et Obélix avec cette nouvelle série, souvenirs de livres, souvenirs de musique tout à l'heure avec la bande originale, est-ce que vous vous souvenez de ce morceau ?
Milli Vanilli,
ah ouais,
c'est très beau. Hein.
On a beaucoup dansé sur ce morceau qui a été non seulement un tube mondial, mais qui s'est pour des. Et il y avait toute une polémique.
On danse là-dessus.
Oui. Polémique en disant c'est pas eux qui chantent, c'est comme Boney M. Ah, oui. C'est comme Boney M, c'est-à-dire ce sont les producteurs. Et c'est vrai que c'est le même producteur de Boney M qui avait fait ce duo, qui était juste un duo de beaux gosses qui dansaient extrêmement bien, mais qui était totalement en playback. Mais en playback, y compris dans des concerts à Wembley, aux Grammy Awards et partout dans le
justement.
Monde. Et il y a un film qui sort. Aujourd'hui, Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar, qui raconte il y en a un des deux qui est malheureusement décédé et l'autre est coproducteur de ce film et ils disent toute la vérité sur le fait que non seulement ils n'ont jamais chanté sur les disques, mais qu'ils n'ont jamais pu chanter, et c'est totalement bouleversant, et c'est la seule fois de l'histoire des Grammy Awards où il y a eu un playback tellement ils chantaient faux pendant les répètes, ils ont envoyé le disque et ça fait un véritable scandale. Le film est une réussite, il sort aujourd'hui au cinéma. Pardon, tu voulais dire un truc?
Oui, parce que j'ai entendu qu'il ne devait pas être sélectionné aux Grammy Awards, et c'est quelqu'un de leur production qui ne savait pas qui faisait du playback,
qui ne chantait
qui
pas,
les a,
exact,
qui les a
présentés,
qui les a proposés, et ils ont été.
Ah non, mais l'histoire est dingue, l'histoire est dingue. Et puis sans compter les excès dans lesquels ils sont tombés, c'est-à-dire que d'un coup, l'argent, les fortunes, évidemment, enfin malheureusement, j'ai dit évidemment, ils sont tombés dans tous les clichés de drogue, de prostitution, de détournement, de enfin voilà, de tout ce qu'il ne faut pas. Et ça donne un très bon film réalisé par Simon Verhoeven. À propos de films, on vous retrouvera Anne dans Ballerina de Len Wiseman. Vous y jouez quel personnage ?
Ah oui, alors c'est vraiment ce qu'on appelle un caméo. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, j'ai baigné le fantasme et l'enfance de ce metteur en scène, qui est un metteur en scène assez jeune, et qui donc pour lui, Nikita, a été une totale révélation. Et il s'est dit, je ne peux pas, dans ce film d'action, où il s'agit effectivement du rôle principal interprété par Ana de Armas, un clin d'œil.
Ouais, la nouvelle tueuse,
de Stevie, ce qui était l'origine. Et donc, vraiment, il m'a dit, je ne sais plus. Je dis oui, non, mais bien sûr, au contraire, ça me touche.
Ça sera le 4 juin, donc c'est là, ça arrive dans une dizaine de jours. Ça arrive tout de suite, c'est Daniel Morin.
Ah oui,
oh là là, Daniel.
Oh là là,
ce que c'est bon de refaire un papier, les amis, parmi vous.
Je suis tout chose.
Ah, je peux vous garantir que j'ai pas hésité une seconde. Hein, quand hier, comme pour Santini, plus personne ne veut bosser ici. Hein, on nous appelle la veille.
Dès qu'il fait beau.
Ah, j'ai pas hésité. Quand le rédacteur en chef de l'émission, Jean-Baptiste Pétain, m'a laissé comme message, Daniel, j'ai besoin de toi demain. Bien sûr, je ne t'oblige pas. Soit tu acceptes, soit tu es viré. Amicalement, Jean-Baptiste Pétain. Vive la France. Le souci, c'est que j'aurais adoré faire un papier élogieux, croustillant et drôle vous concernant, chers invités, mais hier soir, j'étais bien sûr à Cannes. Ah. Eh ouais, je suis rentré pour vous, j'y retourne juste après. Moi, je peux vous dire que cette année, Cannes, c'est waouh, motherfucking waouh. Bon, c'est Radio France qui paye. Hein. Du coup, je ne suis pas descendu au Martinez, mais presque. On m'a réservé une chambre au Gomez. C'est à 60 km de Cannes, sur la Nationale. Je ne sais pas si vous connaissez, Anne. C'est très sympa. Je suis dans la suite présidentielle. Ça veut dire que j'ai une douche dans la chambre. Chambre que je partage avec une équipe de tournage albanaise. Alors, ils sont assez cool. Ils m'ont donné un plaid pour pas que je dorme à même le sol. Bon. Alors, bref, hier, je suis au Palais des Festivals, dans mon smoking en cuir vert. Et là, bam, Tom Cruise me dit « Hey Dan, tu vas à la soirée à la suite 666 ?» Je sais pas, Tom, j'ai pas d'invite. Et là, il me file un carton. Je me dis « Waouh, ça sent le fait divers, mon Danny. Suite 666, les chiffres du diable, ça sent la débauche all night long, baby. » J'arrive sur place et là, patatras, le seum. L'événement, c'était les frères Dardenne qui faisaient une conférence sur l'importance du film social dans la société de surconsommation. Je vous cache pas que je commence à avoir des petits frissons d'angoisse.
Pourquoi ?
Je t'expliquerai. C'était long, mais long. J'en pouvais plus et je pouvais pas bouger. Il y avait De Niro qui était endormi sur moi. Il bavait sur mon épaule. C'était horrible, c'était gênant. Je pouvais rien dire. Imagine, je lui dis un truc, il se réveille, il le prend mal, il me regarde, il me balance. You're talking to me ? Et moi, je serais énervé. J'aurais dit, mais bien sûr, c'est à toi que je parle, espèce de con. Ça fait 2 heures que tu me papes dessus comme un patracien. Et puis d'un seul coup, attention, à minuit pile, Jean-Pierre, l'aîné des frères Dardenne, a viré les journalistes. Il a claqué la porte et. Total débauche toute la nuit. Les deux frères en toupie, le nez dans la coque jusqu'au sinus. J'ai jamais bu autant de ma vie. T'aurais été fier de moi, Leïla. J'avais une patate. J'ai fait l'amour trois fois avec DiCaprio. Hey, je suis hétéro, mais merde. DiCaprio, quoi. Vers 6h du mat, les frères Dardenne, qui venaient de prendre des champignons, m'ont dit qu'ils voulaient que je joue dans leur prochain film. Ils veulent que je joue un boulanger qui perd ses deux mains broyées dans un batteur mélangeur. Et ils n'ont pas pu me raconter la suite. Trop défoncé, les frangins. Mais bon. Sinon, je suis ravi d'être revenu pour vous voir. C'est allez, gentil. Lionel. Malheureusement, faut que je vous laisse. J'ai un coup de fil à passer à DiCaprio. Il m'a laissé 12 messages. Je crois qu'il a un petit crush pour moi.
Et Daniel, sur scène.
Alors, il y a plusieurs dates pour Daniel. Oui. Déjà, il y a la tournée des humoristes, oui. France Inter. À Rennes, le 23 mai. À Nantes, le 24 mai. À Bordeaux, le 25 mai. Autant vous dire que ça va pas être très, très joli de les retrouver quelques jours après.
Ça va être terrible.
Oh, ok. Et à la rentrée, Daniel, oui. Tu es sur scène tout seul, toi, le 13 septembre.
Mon salade aussi.
Ouais. Oui. C'est le 13 septembre et c'est au point virgule et c'est Daniel Morin sur scène, quoi.
Le 3 juin, mais c'est normal, le 3 juin au théâtre, donc le bémol se jouera avec Anne Barillot, Lionel Labellanski, entre autres Pascal Légitimus, Anne-Sophie Girard, je vais y arriver. Le 4 juin au cinéma Ballerina de Len Wiseman avec Anne Barillot, vous serez Lionel dans Le Sens des Choses, enfin vous jouez dans cette série.
Absolument.
Déjà, et le 6 août vous serez à l'affiche de BAD, mais ça s'écrit B-A-D-H.
B-H. C'est le nom d'une super espionne, c'est un film d'action qui est réalisé par Guillaume de Fontenay, qui avait fait un film qui s'appelait Sympathie pour le Diable.
Mmh. Avec Marine Wag, avec Neil Schneider, Emmanuel Berco, joli casting, avec vous.
Ah, je me suis éclaté. C'est
parfait. Et puis vous voulez adapter votre roman, peut-être le réaliser vous-même, Les Abusés, vous voulez le réaliser, Anne Barillot ?
Oui, oui, absolument. Ça y est, ça, c'est un projet qui est en train de s'organiser. Et effectivement, c'était déjà à l'origine, avant même que je l'écrive. En fait, je voulais réaliser et je ne m'en sentais pas légitime.
Est-ce que vous jouerez à des lits en plus de le réaliser ?
Oui.
Parfait. Génial, génial. Que de bonnes nouvelles. Au théâtre, donc, cette pièce, le bémol du 3 au 21 juin au théâtre des Variétés, sur l'amitié, l'harmonie, l'accord, le désaccord, la conquête du pouvoir, l'argent aussi, le rapport de force, mais surtout une comédie avant tout, histoire de passer un très bon moment avec ce brillant casting. Des excuses, Daniel Morin.
Oui, complètement désolé pour tous ceux qui n'ont pas compris le message envoyé par la direction de France Inter à l'équipe de la bande originale. Nous, oui, une heure et demie sur les fausses notes artistiques, c'est clairement pour nous, les amis. La réunion de 7 bémols, c'est nous, très mal placés pendant une heure et demie qui essayent mais qui se trompe, je crois que là on a compris le message. Désolé pour tous les auditeurs âgés qui nous écoutent et qui, depuis la chronique de Lisa, comptent le temps qu'il leur reste à vivre en jour. Ah, c'est vrai que c'est dur. C'est la tendance générale. Hein. Nagui compte les dates de sortie des films en dodo. La régression est totale. Je crois qu'on est sur une fin de parcours. Désolé enfin pour tous nos auditeurs corses, chasseurs amateurs de sangliers morts, de saucissons d'âne et de soupe au sang de bébés animaux qui ont été choqué, humilié, tambouriné par la diatribe bobo vegano vafanculo de Nagui et Anne Barillot. Eh ouais, rien que d'y penser, ça me donne envie de me faire une côte de chien sauce hamster.
Au théâtre des Variétés, donc Anne Barillot, Lionel Labellanski, avec Pascal Légitimus, Anne-Sophie Girard, Bertrand Mounier et Soleil, ça s'appelle Le Bémol, c'est signé Cyril Massarotto, mise en scène par Anne Bouvier du 3 au 21 juin. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps, parce que j'imagine qu'il y a des lectures, des répètes et que c'est en flux tendu en ce moment, d'avoir trouvé le temps de venir parler de cette pièce.
Demain, merci.
Demain, c'est Clémentine Célarier qui sera notre invitée.